Tout de suite, le journal Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'article 24 n'en finit pas de créer la polémique. Après son amendement, la majorité acte sa réécriture. Nous tenterons de comprendre si c'est pour autant la fin du feuilleton.
Mardi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, un événement à ne pas oublier malgré la pandémie de Covid-19 qui monopolise l'attention du monde entier. Vous en parlerez dans votre journal, Antoine Maret, avec l'invité de ce journal, le directeur général de l'association AIDS, Marc Dineuf.
J-30 pour le Brexit, avec ou sans accord avec les Européens, nous ferons le point sur les sujets qui bloquent entre Londres et Bruxelles.
Et puis nous nous interrogerons dans ce journal sur le nouvel ouvrage du pape qui doit sortir demain. François fait un bilan un an après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Son titre, Un temps pour changer.
Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous, Olivia.
Et nous recevons aujourd'hui un cinéaste réalisateur, Sébastien Lifshitz, pour son nouveau film documentaire Petite fille, diffusé cette fois à la télé sur Arte, après Adolescente au printemps au cinéma. Et c'est une pierre de plus à l'édifice sensible qu'il construit depuis des années autour de la question de l'identité en construction. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous en parlerons avec lui dans la deuxième partie de la grande table.
On vous retrouve dans 23 minutes. C'est le feuilleton maudit du gouvernement, cet article qui ne passe pas, amendé, réécrit, rien n'y fait. L'article 24 est au centre d'une polémique qui n'en finit pas. Et l'actualité de ces dernières semaines, émaillée de violences policières, ne fait qu'accroître la méfiance à son encontre. Il est accusé d'être liberticide, car il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Au centre de ce maelstrom, il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a été entendu hier soir pendant plus de 2 heures par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il persiste et signe sur l'article 24. La majorité a donc acté une réécriture de l'article. Est-ce pour autant la fin du feuilleton, Rosalie Lafarge?
La majorité peut toujours annoncer la réécriture de l'article 24. Elle n'a pour l'instant plus la main sur le dossier.
Celui qui a la main aujourd'hui sur cet article 24 et sur la proposition de loi en général, c'est le Sénat.
Les députés de la Macronie vont donc devoir attendre pour éventuellement retoucher au texte en commission mixte paritaire, souligne Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
À ce moment-là, il y aura 7 députés et 7 sénateurs qui se rencontreront. La majorité pourra faire valoir la rédaction qu'elle aura choisie, mais d'ici là, le Sénat l'aura déjà réécrit à sa sauce. Il y a un risque également, si jamais le Sénat veut vraiment embêter la majorité, c'est qu'il le vote conforme, c'est-à-dire qu'il le vote dans les mêmes termes, auquel cas plus personne ne pourra toucher à cet article 24, qui risque fort de subir les foudres du Conseil constitutionnel.
Cette réécriture actée par Emmanuel Macron lui-même, c'est donc avant tout pour ce spécialiste une façon de calmer la majorité parlementaire.
On a une majorité qui aujourd'hui est très fragile en réalité. En donnant comme mission à cette majorité de rédiger cet article, même si de facto ça a une portée limitée quant à la suite du texte, ça permet à la fois de lui montrer que le gouvernement a confiance en elle, et ça permet également de lui montrer que ses desiderata sont prises en considération et que sa voix pèse.
L'autre option sur la table de la majorité, mais difficile à mettre en œuvre selon le politologue, c'est de déporter cet article 24, sécurité globale, dans l'article 25, loi séparatisme, mais le temps presse, puisque ce texte-là doit être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres.
Un rassemblement a lieu en ce moment même devant le tribunal de Bobigny, à l'initiative du collectif Justice des enfants. Un rassemblement contre le projet de code de la justice pénale des mineurs qui doit être présenté aujourd'hui devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'ordonnance de 45 qui régit la justice des mineurs a été maintes fois retouchée au risque de devenir un peu illisible. Et les professionnels en question ne contestent pas la nécessité de le faire une nouvelle fois. Mais ils estiment que le texte présenté par le gouvernement reste très imparfait. Ce texte prévoit qu'en dessous de 13 ans, il y ait une présomption selon laquelle un enfant ne relève pas du champ pénal. Mais car il y a un mais, il prévoit aussi la possibilité d'écarter cette présomption si le juge estime que l'enfant dispose du discernement suffisant. Ce qui pose problème, selon Sophie Legrand, secrétaire générale du syndicat de la magistrature et juge des enfants au tribunal judiciaire de Tours.
Évaluer le discernement d'un enfant, c'est pas seulement comme pour un adulte s'assurer qu'il n'a pas un trouble mental qui l'aurait empêché de comprendre ce qu'il était en train de faire, mais également d'évaluer cela au regard de son âge et du fait que c'est un enfant et donc qu'il est immature, qu'il a peut-être plus de difficultés à intégrer selon l'âge les principes, le bien, le mal, le respect de la loi. Je vous donne l'exemple d'un enfant de 10 ans qui pourrait dire « vive Daesh » par exemple. La question c'est de savoir à 10 ans, est-ce que d'une part il sait ce que c'est que Daesh, est-ce qu'il sait que quand il le dit, il commet un délit qui s'appelle apologie du terrorisme, est-ce qu'il comprend pourquoi c'est grave ? Peut-être, mais c'est quelque chose à évaluer précisément. Or, sur ce plan, le code ne résout rien et ne donne pas d'outils particuliers aux juges des enfants pour aller évaluer ce discernement. Et donc, la vraie crainte, c'est qu'on l'évalue de la mauvaise façon en se concentrant sur l'aspect psychiatrique qui ne recouvre pas du tout la totalité de ce qu'il y a à examiner pour évaluer le discernement d'un enfant. Et in fine, on se retrouve avec une présomption qui n'est pas irréfragable, ça veut dire qu'on va pouvoir y déroger. Or, la Convention internationale des droits de l'enfant demande aux pays de fixer une présomption irréfragable selon laquelle, en dessous d'un âge donné, on n'utilise pas le pénal, on utilise d'autres moyens d'action pour aider les enfants qui commettent des actes délinquants et notamment des mesures éducatives.
Sophie Legrand, micro de Florence Turm. Le gouvernement organise l'accès prochain au vaccin contre le Covid-19. Les autorités sanitaires ont recommandé hier de vacciner en priorité les résidents des EHPAD, qui représentent environ 750 000 personnes, ainsi que les salariés de ces établissements présentant un risque de forme grave en raison de leur âge ou de leur santé, soit 90 à 100 000 personnes. C'est la première phase de cette stratégie française que vous décryptez pour nous, Tara Schlegel.
Marie-Paul Clény est l'une des meilleures spécialistes de la virologie en France. Sous-directrice de l'OMS au moment de la crise du virus Ebola, elle a aussi une grande expérience des campagnes de vaccination. En France, la stratégie choisie est de limiter au maximum la mortalité induite par le SARS-CoV-2. Autrement dit, de protéger d'abord les plus fragiles, comme le détaille Marie-Paul Clény.
Pour ça, il faut cibler deux groupes. Il y a les personnels de santé, pas uniquement les médecins, les infirmières, mais aussi les brancardiers, etc., les auxiliaires de vie, ces gens qui sont exposés vraiment au virus de par leur métier, et d'autre part il y a les personnes les plus vulnérables, et ça bien entendu il faut quand même avoir une validation qu'on n'a pas encore tout à fait, c'est que les vaccins qu'on va pouvoir utiliser sont efficaces chez les personnes âgées. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas encore ? Eh bien, il existe un phénomène naturel qui s'appelle l'immunosénescence. Effectivement, toutes nos cellules vieillissent et les cellules du système immunitaire vieillissent aussi. Et en général, il est beaucoup plus difficile de protéger des gens qui sont âgés à cause de cette immunosénescence que les gens qui sont jeunes.
Le vaccin contre la grippe, par exemple, protège beaucoup moins bien les personnes âgées que les jeunes. Mais le vaccin contre le zona, ajoute Marie-Paul Clény, est en revanche très efficace, quel que soit l'âge. Pour savoir combien les personnes âgées seront protégées, il faut donc attendre la publication des résultats des essais cliniques. Et pour l'instant, nous ne l'avons toujours pas. Si l'on voulait changer de stratégie vaccinale et diminuer vraiment la circulation du virus, ce qui serait aussi intéressant pour se débarrasser de l'épidémie, il faudrait d'abord répondre à une autre question, savoir si les futurs vaccins vont protéger non seulement contre la maladie, ce qu'ils feront, mais également rendre les porteurs du virus non contagieux une fois qu'ils sont vaccinés. Et ça, pour l'instant, on l'ignore aussi. Mais Marie-Paul Clény garde bon espoir, notamment quand on regarde les essais sur les modèles animaux, en particulier les singes, les macaques rhésus.
Quand on regarde si dans les singes, on trouve du virus dans leur système respiratoire, donc dans la plupart des cas, on n'en trouve pas dans le poumon. Effectivement, les poumons sont protégés, mais selon les vaccins, on en trouve dans les sphères respiratoires supérieures, c'est-à-dire dans le nez, dans la trachée, dans la gorge, mais pas avec tous les vaccins. Donc on pense, après le modèle animal, qu'il pourrait y avoir une différence, que certains vaccins seraient plus efficaces pour protéger contre la transmission du virus que d'autres, mais il faut encore vérifier et valider ça chez l'homme.
Encore beaucoup de questions donc, Antoine, mais certains vaccins seront probablement capables de limiter la contagion du virus et donc à terme de réduire considérablement la circulation d'une maladie qui paralyse toute la planète.
Et les perspectives de l'économie mondiale s'éclaircissent avec la perspective de l'arrivée de ces premiers vaccins. C'est l'avis de l'OCDE. L'économie mondiale devrait afficher en 2021 une croissance de 4,2% après une contraction du même ordre prévue cette année. L'organisation abaisse cependant sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2021 par rapport à l'estimation indiquée en septembre. Et ceci en raison de la deuxième vague de coronavirus qui frappe une grande partie de l'Europe et des États-Unis. Cette information qui vient tout juste juste de tomber. On vient d'apprendre la disparition d'Anne Sylvestre, la chanteuse Anne Sylvestre, chanteuse féministe et chanteuse pour enfants. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans ce journal. Midi passé de 40 minutes sur France Culture, mardi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, un événement à ne pas oublier malgré la pandémie de Covid-19 qui monopolise l'attention du monde entier. On en parle avec notre invité, Marc Dizneuf, directeur général de l'association AIDE. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Première question, est-ce que la pandémie de Covid-19 a un impact sur la prise en charge, le dépistage et la prévention du VIH ?
Oui. Dans tous les pays du monde, de manière indiscutable et absolument de la même manière, c'est-à-dire que c'est une chute brutale du recours au dépistage, une chute brutale de l'initiation à la PrEP, la prophylaxie pré-exposition pour les pays comme la France qui en bénéficient, de l'arrêt de l'accès au traitement dans certains pays du Sud, de l'arrêt du suivi biologique dans les pays où on a des partenaires, au Mali, au Burkina par exemple, où les petits moyens dont disposent ces États-là en matière de santé ont été alloués complètement à la Covid, et du coup, les personnes séropositives n'avaient plus accès au traitement, n'avaient plus accès à leur suivi biologique. Donc oui, c'est un impact très concret, très direct.
Alors la PrEP, justement, vous en avez parlé, ça fait 5 ans qu'elle est autorisée en France. Elle permet, alors on le rappelle, hein, elle permet aux personnes séronégatives à risque de rester séronégatives en prenant une pilule. Quel est le bilan de cette demi-décennie de PrEP en France ?
C'est un bilan qui est très positif. La PrEP, ça vient permettre, après des années de contrôle de l'épidémie en France, grâce au dépistage, à la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH et au recours au préservatif, la PrEP, c'est ce qui vient permettre d'envisager la fin de l'épidémie de VIH en France. C'est-à-dire que ça vient porter le coup final, c'est-à-dire que les personnes qui s'exposent beaucoup sont protégées à 100%. Et l'an dernier, en septembre, lors d'une conférence à Londres, on a pu communiquer sur le fait qu'en Ile-de-France, il y avait une baisse de presque 20% des nouvelles découvertes d'infection à VIH chez les hommes homosexuels.
Mais ça, c'était avant le Covid-19.
Ça, c'était avant le Covid-19, et puis encore avant le Covid-19 aussi. Enfin, ça, c'est des chiffres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on voit aussi un fort recul des nouveaux entrants dans les files actives hospitalières. Donc, on pense que ça, c'est lié à la PrEP. Et ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est que ces gains, cette dynamique extrêmement positive contre l'épidémie, avec l'arrêt de l'inclusion sous PrEP, au cours de la PrEP, et le retard au dépistage. Être dépisté, c'est un avantage pour soi. C'est un avantage pour ses partenaires. Quand on est séropositif sous traitement, on ne transmet plus le VIH. Et le fait que les personnes n'aient pas eu recours au dépistage massivement en mars-avril fait craindre, comme pour la PrEP, que dans les mois qui viennent, on ait de nouvelles découvertes d'infection à VIH qui auraient pu être évitées soit grâce à la PrEP, soit grâce à des personnes qui auraient été sous traitement plus tôt et n'auraient donc pas transmis, connaissant leur statut sérologique.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de PrEPeurs, comme on dit en France ?
Oui, ils sont un peu plus de 30 000 aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une forte croissance d'une année à l'autre. Il y avait un document assez ancien maintenant qui évaluait à au moins 40 000 personnes sous PrEP en France pour avoir un véritable impact. Alors on voit qu'on l'a déjà dans les premières données, même si il faudra quelques années de recul. Donc on a une montée en charge très importante. Il va falloir maintenant rattraper le coup de frein brutal qui a été donné ces derniers mois.
Alors est-ce qu'on a des informations sur une évolution possible de ce traitement préventif qui pour le moment est assez contraignant, hein ? C'est une pilule par jour avec des effets secondaires.
Alors les effets secondaires sont de ce qu'en disent les utilisateurs de PrEP sont très mineurs. Il peut y en avoir quelques-uns au début de la prise du traitement, comme quand on prend n'importe quel traitement prophylactique. Au fil de l'eau, la PrEP est un usage irrégulier, c'est-à-dire que c'est lié à aux prises de risque sexuelles. Donc selon les personnes, vous allez avoir une prise de PrEP quotidienne ou des personnes qui vont en prendre parce qu'elles vont avoir des partenaires et puis vont arrêter d'en prendre quand elles n'auront pas de partenaire. Par exemple, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui étaient sous PrEP qui ont cessé de prendre la PrEP parce que ces personnes ont cessé d'avoir des partenaires. Donc ce qui se développe aujourd'hui, c'est des formules injectables au long cours, mais c'est vrai aussi pour les antirétroviraux, pour le traitement des personnes vivant avec le VIH.
Il y a la question du prix de la PrEP, c'est un traitement qui coûte cher, 100 euros par mois, remboursé par la Sécurité sociale, c'est beaucoup plus cher que le préservatif, alors pourquoi ne pas plutôt utiliser le préservatif ?
Ben, si c'était aussi simple que ça, je pense que jamais on aurait promu... Enfin, la PrEP, c'est le résultat d'un consensus mondial des chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a des personnes qui mettent de manière très systématique le préservatif et d'autres qui le mettent de manière moins systématique parce que c'est pas un outil de prévention facile pour tout le monde. Et même quand vous l'utilisez, quand vous avez plusieurs partenaires de manière très fréquente, ben vous pouvez avoir des ratages dans votre prise. Et donc l'idée, c'est bien d'offrir un outil de prévention supplémentaire pour les personnes qui vont avoir des difficultés avec le préservatif. C'est toujours moins cher de permettre à une personne d'avoir accès à la PrEP pendant quelques années plutôt que de devoir lui prescrire un traitement antirétroviral et de le prendre en charge pendant toute une vie parce qu'il y a le coût du traitement, il y a le coût des bilans et puis il y a le coût de la vie au long cours aussi avec l'infection à VIH. Donc si l'assurance maladie a choisi de faire ce choix économique de rembourser la PrEP, c'est bien parce que c'est aussi coût efficace, c'est pas seulement dans l'intérêt des individus, c'est aussi dans l'intérêt de la santé publique.
Merci beaucoup à vous, Marc Dizneuf, d'avoir accepté cette interview dans le journal de France Culture. La justice néerlandaise examine aujourd'hui la requête d'un collectif d'ONG environnementales qui tente de contraindre Shell à réduire ses émissions de CO2. Ces ONG accusent le géant pétrolier de ne pas faire assez pour s'aligner sur l'accord de Paris. L'affaire est unique. Plus de 17 300 citoyens néerlandais se sont constitués partie civile. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
C'est donc parti pour 4 jours d'audience.
Effectivement, 4 jours d'audience, on aura le résultat probablement à l'été prochain. Pour les ONG, Shell émet 2 fois plus de CO2 que l'ensemble des Pays-Bas, soit environ 1% des émissions mondiales. Dans leur plainte, les parties civiles estiment pouvoir prouver que la compagnie anglo-néerlandaise était consciente des changements climatiques depuis les années 50 et en connaissait les effets à grande échelle depuis au moins 1986. Et malgré les efforts en vue d'un développement plus durable, Shell s'est orienté dès 2007 vers l'exploitation de gaz de schiste, par exemple. La société a remonté en avril ses objectifs de réduction de CO2, 30% en 2035, mais pour les parties civiles, c'est nettement insuffisant. Shell doit être, dès 2030, contrainte par la justice à une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 45%. Cette nouvelle affaire s'est construite sur le succès judiciaire du dossier Urgenda, un mot valise fondé sur urgence et ordre du jour. Une plainte déposée contre l'État néerlandais en 2012 qui a débouché sur une condamnation confirmée il y a un an par le Hoge Raad, l'instance judiciaire suprême aux Pays-Bas. Et cette condamnation a conduit le gouvernement batave à prendre des mesures très tangibles. Amélioration de l'isolation des logements, réduction de la vitesse sur autoroute pendant la journée. Et certains estiment ici qu'il sera peut-être plus compliqué pour les plaignants d'obtenir satisfaction cette fois-ci, parce que dans l'affaire Urgenda, il avait été finalement relativement facile, en fin de compte, de prouver que l'État ne s'était pas tenu à ses engagements internationaux, au protocole de Kyoto par exemple. Les plaignants estiment toutefois qu'en cas de victoire, cette plainte pourrait avoir des répercussions mondiales.
Merci à vous, Pierre Benazet. Cela fait désormais un an que nous vivons au rythme du coronavirus apparu en Chine. De quoi faire un bilan? C'est en tout cas ce que fait le pape dans un livre qui sort demain en librairie. Son titre, Un temps pour changer, écrit avec Eustène Ivereg chez Flammarion. Dans cet ouvrage, François dessine le monde d'après, un monde bien différent d'aujourd'hui. À Rome, Bruce de Galza.
Les temps que nous vivons sont décisifs, selon François. Impossible de revenir aux fausses sécurités de nos systèmes politiques et économiques d'avant la crise, car le pape craint une énorme explosion sociale. Il dénonce l'infâme théorie du ruissellement, selon laquelle une économie en croissance nous rendra tous plus riches, une fausse hypothèse selon lui. Pour François, c'est à l'état de ses périphéries que l'on peut juger de la santé d'une société. Il faut donc laisser derrière nous la culture du selfie pour aller à la rencontre de l'autre, du plus faible, du plus pauvre, du migrant que nous devons accueillir, protéger et intégrer en fonction de nos capacités d'accueil. Le pape veut des hommes politiques qui assurent à leur peuple les 3 T, la terre, le toit et le travail. Et François a des propositions concrètes, comme la mise en place d'un revenu de base universel qui libère les gens et leur permet de travailler dignement pour la communauté. La réduction du temps de travail également, travailler moins pour que plus de personnes accèdent au marché du travail. C'est une réflexion urgente à avoir, écrit le pape.
Dans un mois exactement, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. La question toujours en suspens, cette sortie se fera-t-elle avec ou sans un accord, le fameux deal ou no deal? Un accord permettrait de fluidifier les relations entre les Européens et les Britanniques. Les discussions durent depuis un an avec beaucoup d'intox des deux côtés. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quels sont les sujets qui bloquent ?
Les principaux, tout simplement, ceux qui conditionnent tout le reste. La question des aides publiques, par exemple. Dans l'Union européenne, il y a des plafonds. Un État ne peut pas investir dans une industrie ou un secteur économique comme bon lui semble, sous peine de concurrence déloyale avec les autres membres. L'UE ne veut pas avoir un concurrent sans régulation qui entre sur son marché. Le Royaume-Uni doit donc se plier à des règles, encore faut-il les déterminer, et que tout le monde tombe d'accord, ce n'est pas le cas pour le moment. Il faut également mettre en place des mécanismes compliqués, puisqu'à partir du 1er janvier, lorsqu'une régulation changera d'un côté de la Manche, on devra en subir les conséquences de l'autre côté, ne pas faire comme si de rien n'était. Exemple, si une norme environnementale en matière de production chimique bouge à Londres, les produits européens qui entrent sur le marché britannique devront s'adapter, et ça va dans l'autre sens évidemment. Cette question des standards, des normes, c'est finalement central, quel que soit le sujet. Pour rester dans le marché continental sans payer d'importantes taxes, le Royaume-Uni doit s'engager fermement à respecter des lois. En la matière, la confiance des Européens est entamée, puisqu'il y a 3 mois, Boris Johnson s'est arrogé le droit de revenir sur un traité international, le texte qui entérinait le divorce avec l'Europe, justement, traité que le Royaume-Uni avait signé il y a 1 an seulement.
Il y a une question qui revient souvent, c'est celle de la pêche.
Oui, absolument. Et là, on est bien plus dans le domaine du totem que du poids économique majeur. Au Royaume-Uni, ancien grand empire colonial dont la marine était un fleuron, la mer et les océans, c'est un sujet qui tient du prestige, de la réputation. Côté européen, pour certains pays, et la France en particulier, la pêche, c'est une tradition, un symbole, et les Britanniques disposent là d'un levier important puisque l'Europe vient très majoritairement lancer ses filets chez elle. Londres dit ne pas vouloir conserver le système de quotas actuel, et Bruxelles ne veut pas les renégocier chaque année. C'est donc un réel point de blocage à l'heure actuelle.
Merci à vous, Richard Place, en direct de Londres. Merci également à Angélique Bouin, correspondante à Bruxelles, pour ces précieuses informations. On revient sur la disparition de la chanteuse Anne Sylvestre, avec ses œuvres féministes souvent restées dans l'ombre du succès, mais aussi ses contes musicaux pour enfants, souvent plus connus. Elle est décédée hier à l'âge de 86 ans, son portrait avec Yann Bertrand.
60 ans de chansons et des engagements constants. Au début des années 60, apparaît dans les cabarets parisiens cette jeune chanteuse au texte perçant, la guitare en bandoulière.
Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où.
Anne Sylvestre, contemporaine et admirée de Brassens ou Moustaki, a mené une carrière en équilibre. Chanteuse engagée, même si le terme ne lui plaisait pas, féministe affirmée, militante, certains textes marquent leur époque, comme Petit Bonhomme, Les gens qui doutent, et l'une des premières chansons sur l'avortement en 1973, Non, tu n'as pas de nom.
Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non. Tu n'es pas un être.
Mais Anne Sylvestre est aussi célèbre pour ses fabulettes, ses contes et chansons pour enfants sorties en disque. Dès les années 60, elle a accompagné des générations entières.
J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long.
Elle qui avait perdu son petit-fils, Baptiste Chevreau, dans l'attaque du Bataclan, devait reprendre dans 1 mois et demi sa dernière tournée pour poursuivre sur scène. Et plus que jamais, des combats qu'elle n'a jamais abandonnés.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent que parfois...
Que de souvenirs, Anne Sylvestre, qui est donc décédée hier à l'âge de 86 ans. Cet après-midi, il va pleuvoir sur un quart nord-est sur les Pyrénées. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va dominer. Température basse dans l'est, 3 degrés seulement à Strasbourg, compte également 9 degrés à Paris et jusqu'à 14 degrés à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.